Bon réveil, si vous nous rejoignez, c'est l'heure du journal d'Amélie Perrier, bonjour.
Bonjour Émilie, bonjour à tous. Ils ne sont pas venus à l'Élysée pour rien. Les syndicats de policiers sont repartis hier avec 250 millions d'euros de promesses, surtout du matériel neuf, plus moderne, des commissariats rénovés et une réorganisation de leurs tâches également. Un plan pour calmer le malaise des agents. Depuis 10 jours, ils manifestent partout en France. Un ras-le-bol exacerbé depuis l'agression d'une patrouille à Viry-Châtillon au début du mois. Une réponse satisfaisante de l'État, donc, selon Yves Lefebvre, le secrétaire général d'Unité SGP Police.
Le Parlement va pouvoir étudier l'anonymisation des policiers, qui est une revendication essentielle pour notre syndicat, et ce depuis le massacre de Magnanville. Autre point important, qui était aussi une de nos revendications essentielles et une des revendications essentielles de nos collègues sur le terrain, nos collègues de la base, et grades gardiens et adjoints de sécurité, c'est aujourd'hui l'alignement des peines en matière d'outrage à l'endroit des agents de la force publique, alignement sur celles prononcées lorsqu'il s'agit d'outrage aux magistrats. Un point très important aussi, c'est l'ouverture des travaux sur la légitime défense. Alors si aujourd'hui l'évolution de la légitime défense n'a pas été actée, pour autant a été actée aujourd'hui, le début de travaux, en l'occurrence là aussi avant la fin du mois de novembre, donc des annonces très fortes avant la fin du mois de novembre, j'ai dit il y a des gestes forts, il y a un budget, il y a des avancées. Ça serait, je crois, totalement populiste et poujadiste de ne pas prétendre le contraire. Il y a un calendrier fixé. Maintenant, nous allons consulter notre base. Reste en suspens quand même cette problématique grave qui divise aujourd'hui les services de police à tous les niveaux, la problématique de la politique du chiffre et de la course aux résultats. Aujourd'hui, il faut qu'on arrête la méritocratie là-dessus. Tout n'est pas encore parfait, mais il y a des points intéressants à poursuivre.
Yves Lefebvre, syndicaliste Unité SGP Police, satisfait donc. Mais la particularité du mouvement depuis 10 jours, c'est que la base ne répond plus aux syndicats et manifeste hors de tout cadre syndical. Le plan annoncé hier n'a d'ailleurs pas convaincu ses policiers. Des cortèges se sont formés à Lyon, Marseille et au Mans. François Hollande, qui juste avant de recevoir les policiers, a rendu hommage à son prédécesseur François Mitterrand, discours au musée du Louvre à Paris, pour le centenaire de la naissance de l'ancien président socialiste. L'occasion de parler de lui, de parler de soi et de se projeter dans l'avenir. Ludovic Piétenu a suivi ce rendez-vous de toute la Mitterrandie.
François Hollande est le deuxième président socialiste sous la cinquième, alors il s'inspire du premier.
La gauche. Gauche qui prétendait non seulement accéder au pouvoir, mais y rester.
Discours portrait de François Mitterrand et en creux discours autoportrait.
Faut-il rappeler ce que, de son vivant, François Mitterrand a pu subir de critiques, de contestations, d'outrages, d'outrances.
Alors il forme un vœu pour lui-même.
Ce qui va compter, c'est ce qui va rester.
Et là encore, il faut lire entre les lignes. Hollande réitère un appel à ceux qui seraient tentés de jouer personnel.
À la gauche, à toute la gauche, il laisse un testament décisif. Se rassembler pour gouverner. Et gouverner pour réformer et changer le pays.
À ses amis, il dit en substance « comptez sur moi ». Et si, comme il l'a fait remarquer de très nombreuses fois, François Mitterrand parlait de volonté, François Hollande a démontré qu'il en était doté et qu'il croyait tout à fait la victoire possible.
Mission accomplie pour la préfecture du Pas-de-Calais. La jungle a été évacuée en 3 jours. 5600 étrangers sortis du bidonville et emmenés dans les centres d'accueil et d'orientation un peu partout en France. Les opérations de déblaiement vont se poursuivre pour dissuader ceux qui seraient tentés de revenir dans le campement. Le dialogue est rétabli entre les journalistes et la direction d'ITL, mais toujours pas de sortie de crise en vue. La rédaction demande le départ de l'animateur Jean-Marc Morandini, mis en examen pour corruption de mineurs, accusé par l'équipe de ternir l'image de la chaîne. Elle demande aussi une charte éthique pour garantir leur indépendance vis-à-vis de leur principal actionnaire, Vincent Bolloré. On en vient à cette question, comment parler des attentats dans les médias? Question que s'est posée le CSA, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, vient de publier des recommandations pour les télés et les radios. Catherine Pétillon s'est penchée dessus.
Comment présenter les auteurs d'actes terroristes? Quelle conduite adopter sur le terrain? Quelles précautions prendre? Sur toutes ces questions, le CSA ne cite aucun des manquements qu'il avait constatés dans le traitement des attentats par les radios et télévisions, mais formule une série de recommandations, comme la mise en place d'une cellule de crise spécifique dans les rédactions en cas d'attentat, afin de renforcer le contrôle et la validation des informations diffusées. Les chaînes d'infos en continu sont-elles invitées à envisager la diffusion en léger différé pour rendre ce contrôle possible? Parmi les enjeux pointés, ne pas gêner l'action des forces de l'ordre ou de la justice. Pour cela, le CSA préconise d'éviter les prises de contact avec les terroristes ou les otages. Autre pratique constatée, les interviews de personnes visiblement en état de choc. Le CSA rappelle ici l'état de vulnérabilité des victimes et de leurs proches. Le régulateur revient enfin sur cette question qui fait débat, y compris au sein des rédactions. Faut-il donner l'identité des auteurs d'attentats? Sur ce point, le CSA estime qu'il n'y a pas de réponse unique satisfaisante. à chaque média de choisir. Il appelle seulement à la plus grande vigilance dans la manière de relater leur parcours afin de se prémunir des phénomènes de mise en valeur, voire de glorification. Ce guide est le résultat de rencontres avec les médias, les associations de victimes, des experts et le procureur de la République, François Molins.
6h35 sur France Culture, la suite du journal avec vous Amélie Perrier. Et le massacre se poursuit en Syrie.
Dans la province d'Idlib, c'est dans le nord-ouest du pays, des raids aériens ont été menés contre une école. 22 enfants et 6 enseignants ont été tués, information de l'UNICEF. L'ONG dénonce une tragédie, un possible crime de guerre. Et dans les matins, aujourd'hui, à partir de 7h40, Guillaume Erner vous emmène à Alep avec un invité exceptionnel, le maire de la ville martyr. Il s'appelle Brita Agi Hassan. Il nous racontera le quotidien et les souffrances endurées par sa ville et ses habitants. En Irak voisin, l'étau se resserre autour de Mossoul, deuxième ville du pays, tenue par les djihadistes de Daesh depuis 2 ans et demi. Les milliers de soldats irakiens et les combattants kurdes de Peshmerga, appuyés par la coalition internationale, ne sont plus qu'à quelques kilomètres des faubourgs. Ils ont déjà libéré des villages alentours, comme Badana. C'est le reportage de notre envoyé spécial sur le front irakien, Philippe Randé.
En descendant de la voiture, Adji ose à peine poser la pointe du pied sur les gravats de son village. Au bout de quelques mètres, appuyé sur sa canne, il s'arrête devant 2 casseroles rouges remplies d'explosifs posées à côté d'une carcasse de voiture calcinée.
Ça, c'était ma maison. Regardez, tout est par terre. Daesh avait construit à l'intérieur 2 usines pour fabriquer des explosifs. Comment exprimer ma peine ? C'était toute ma vie. C'est encore dangereux. Tout est piégé. Aucun des mineurs n'est là. Ni les Peshmerga, ni l'armée irakienne. Daesh est sûrement toujours caché sous terre. Là, il y a un tunnel. Et puis ici, et là-bas. En plus, on vient d'entendre une explosion proche. Un tank. Mais je ne sais pas où il est.
Finalement, Adji repartira avec l'arrière de son pick-up vide, sans savoir s'il reste quoi que ce soit dans les décombres de sa maison. Sur le chemin du retour, Saïd, son ami, freine brusquement en voyant un cadavre sur le bord de la route.
Je ne sais pas sa nationalité, c'est un djihadiste. Regardez, ses 2 jambes sont coupées. C'était un kamikaze, il a toujours la bombe sur lui, c'est dangereux. Ne nous approchons pas trop près du corps.
Comme Badana, des dizaines de villages ont été repris par les forces de sécurité depuis le début de l'offensive. Comme à Badana, le retour des civils risque de prendre de longues semaines.
Le reportage de Philippe Randé, envoyé spécial à Mossoul avec Raymond Albouy aux moyens techniques. Et puis le CETA en mauvaise posture, le chef du gouvernement canadien n'a pas pris l'avion finalement cette nuit pour Bruxelles. Le sommet pour signer le traité de libre-échange avec l'Union européenne prévu aujourd'hui est annulé. La Wallonie continue de bloquer de son veto la ratification du texte. On termine par le temps de ce jeudi. Ce sera d'abord gris, puis ensoleillé, nous dit Météo France. Il fait froid ce matin, 4 à 7 degrés en général. Et cet après-midi, on attend 14 à Clermont-Ferrand, 16 à Paris, 19 à Toulouse, 22 à Marseille.